place publique.
En fait-on assez pour le bien-être de nos animaux? Faut-il faire mieux? Comment faire mieux? La Suisse joue-t-elle un rôle précurseur? Est-elle en retard? La vision humaine de la dignité animale a-t-elle évolué depuis le début du siècle? Pourquoi? Comment? À un mois du vote sur l'initiative dite des vaches à cornes, cette thématique est au cœur de l'actualité, suscite débats et questionnements auxquels on va apporter des éléments de réponse durant les 35 prochaines minutes.
Jusqu'à 19h, place publique. Cyprien Lovie.
Bonsoir et bienvenue. On a sorti les micros du studio ce soir pour vous proposer un place publique spécial en direct de la foire du Jura à Delémont. Je dirais même plus précisément de l'espace agricole de ce comptoir qui attire chaque année 60 000 visiteurs. Rendez-vous incontournable de l'automne jurassien. Et pour nous ce soir, eh bien, l'occasion d'évoquer, hors les murs et aux côtés d'animaux, une question sensible qui suscite toujours davantage d'intérêt et de réaction dans notre société, le bien-être des animaux. L'humain en fait-il assez? Doit-il en faire davantage? Si oui, comment? On en débat donc jusqu'à 19h avec quatre personnes invitées autour de cette table. Honneur aux dames, on reçoit ce soir Pia Chazard, porte-parole et présidente de l'association antispéciste pour l'égalité animale, dont l'objectif est l'avènement d'une société égalitaire pour tous les animaux. Bonsoir.
Bonsoir.
À ses côtés, un producteur, Joan Studer, qui exploite un domaine à Lucelle, à la frontière entre le Jura et la France, domaine dans lequel il élève notamment des porcs basques. Bonsoir.
Bonsoir.
Autour de la table aussi, Michel Darbelay, valaisan d'origine mais jurassien d'adoption, puisqu'il dirige depuis plusieurs années AgriJura, la chambre de défense du monde agricole. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis enfin, Olivier Girardin, directeur de la Fondation Rurale Interjurassienne installée à Lovresse et Courtemelon, mais aussi président de Stratégie Qualité. Fondée voici tantôt 2 ans, cette association défend la qualité des produits suisses dans le domaine agroalimentaire et a lancé cette année une analyse portant sur le bien-être animal. Olivier Girardin, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à tous les quatre, évidemment, d'être là pour partager vos points de vue sur cette question de la dignité des animaux durant une bonne trentaine de minutes. Il y a un élément sur lequel vous êtes tous d'accord avant même de lancer le débat, c'est qu'on peut faire encore mieux en matière de bien-être. J'aimerais peut-être démarrer cette discussion du coup sur des faits pour avoir une base concrète. Olivier Girardin, il y a un mois, Stratégie Qualité a publié à Berne les fruits d'une analyse sur le bien-être animal. Quels sont les enseignements majeurs que vous en ressortez?
Oui, ben déjà, justement, les enseignements majeurs, c'est justement une comparaison qui a été faite entre les standards au niveau du bien-être animal en Suisse et puis à l'étranger, on n'a pas fait tous les pays, mais les principaux pays dont on importe de la viande. Il faut savoir que, ben, au niveau de la consommation de viande, il y a à peu près 80% qui est produit en Suisse globalement, donc on en importe le 20%. Puis on a voulu s'intéresser à une comparaison entre les conditions de bien-être animal en Suisse par rapport aux principaux pays importateurs. Alors ce qu'on constate quand même dans l'ensemble, les standards qu'on a en Suisse, bah c'est des standards qui sont élevés en termes de bien-être animal et puis aussi en termes de contrôle lié aussi à ce bien-être animal. Donc je dirais que c'est l'enseignement principal qu'on a retiré de cette étude. Par contre, justement où il y a un potentiel d'amélioration, c'est certainement aussi par rapport à la provenance aussi de la viande étrangère, de mieux peut-être connaître aussi cette provenance, principalement dans le domaine de la restauration à l'extérieur. Bah, quand on consomme cette viande, elle vient d'où? Et puis quelles sont les conditions liées en fait à cette production?
Pia Chazard, Olivier Girardin le dit, la Suisse en avance sur certains autres pays, un peu plus strict, il y a plus de contrôle, des stabulations libres aussi, du plein air. Est-ce que le bien-être des animaux en Suisse, finalement, c'est pas si mal?
Alors, c'est effectivement, c'est vrai que comparé à d'autres pays, la Suisse est passablement en avance en matière de bien-être animal. Néanmoins, je pense qu'il faut faire très attention avec ce type d'analyse parce qu'on entend fréquemment, les industriels se vanter, en fait, de la situation des animaux en Suisse. Le fait est qu'aujourd'hui, en Suisse, on tue plus de 77 millions d'animaux dans les abattoirs. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement problématique en soi, et il faudrait surtout éviter de trop jouer sur cette, ima- cette image d'Épinal qu'a l'élevage en Suisse, parce qu'elle ne correspond absolument pas à la réalité, justement, dans la mesure où on ne parle que très peu de ce que vivent les animaux dans les abattoirs suisses.
On en parlera dans ce débat de ce qui se passe dans les abattoirs. Avant, on va peut-être terminer le premier tour de table avec vous, Johan Studer, en tant que producteur. Le bien-être de vos animaux, ça passe avant le rendement ?
Oui, bonsoir. Alors, évidemment, ça passe, en tout cas... Pour ma part, on a une exploitation où on a une réflexion qui est menée sur le bien-être animal en travaillant avec des races extensives. On a l'intégralité de nos animaux qui vivent en plein air. Et puis, quand je dis plein air, c'est en milieu naturel. Donc, tous nos animaux vont aller dans les pâturages, c'est-à-dire les bovins, les caprins, les ovins, les chevaux et les porcins également. Et puis, oui, évidemment qu'on peut faire, on peut toujours faire mieux. Monsieur Gérardin l'a souligné tout à l'heure. En Suisse, on est déjà bien loti en termes de loi sur la protection des animaux et sur les conditions de détention des animaux. Et peut-être les points où on doit faire vraiment attention, c'est de conserver vraiment une agriculture familiale, des structures pas trop grandes. Et on a parlé justement, Madame Chazard parlait tout à l'heure des abattoirs. Effectivement, je pense qu'il est très important de garder les petits abattoirs, de garder des abattoirs proches des structures d'élevage, à dimension, alors ça va peut-être la faire sauter, à dimension humaine, mais je pense que dans les petits abattoirs, on a la possibilité déjà, l'éleveur, nous, d'accompagner nos animaux jusqu'à la fin. Et puis, je pense que c'est un minimum qu'on peut leur donner, quoi.
Encore une fois, on va parler de ces abattoirs dans un instant. J'aimerais juste conclure le premier tour de table avec vous, Michel Darbelay. Johan Studer est un producteur frontalier, finalement. L'Arc Jurassien est une région frontalière. À travers les propos d'Olivier Girardin, on a aussi compris la relation donc, entre la Suisse et l'international. Est-ce qu'on peut faire mieux en Suisse en termes de normes, de bien-être, tout en restant compétitif à l'échelon international?
Alors c'est vraiment là la question. La Suisse, on peut le dire sans aucune prétention, est championne du bien-être animal. C'est vrai qu'elle a une longueur d'avance, mais cela a un impact sur les coûts de production. Et tout ce qu'on fera en plus aujourd'hui en termes d'efforts, en termes d'engagement sur le bien-être animal, eh bien ça affaiblira la compétitivité de nos agriculteurs. Alors oui, on peut en faire davantage, mais à condition que le consommateur soit prêt à mettre plus. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a une législation extrêmement stricte, la plus exigeante au monde en matière de bien-être animal. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des programmes qui sont venus se greffer là-dessus, des labels qui permettent d'en faire davantage en termes de bien-être animal. Et c'est bien aussi la raison pour laquelle les agriculteurs suisses ne se contentent pas de remplir les normes légales, mais vont souvent au-delà, justement, en respectant des labels qui leur permettent aussi de gagner de la valeur ajoutée sur les marchés et par là même aussi de profiter au bien-être animal.
Mais parfois aussi en ayant des contraintes justement au niveau du rendement ou tout simplement de pouvoir nouer les deux bouts à force d'être précurseur, d'imposer des règles finalement, des normes aussi, des quotas. On va dans le sens du bien-être. Olivier Girardin, est-ce que on n'atteint pas une certaine forme de limite pour que les agriculteurs puissent continuer à nouer les deux bouts tout en respectant toutes les normes qu'on leur impose?
Alors c'est clair, cette question des normes, mais en même temps ça répond à une attente de la société. Moi je dirais pas qu'il faut moins, je pense qu'on a un bon niveau comme c'est mentionné, et puis il faut pouvoir rester à ce niveau-là, parce qu'il y a une attente claire des consommateurs par rapport à cela, c'est-à-dire il est prêt à consommer de la viande, ben, pour autant qu'il sache que finalement les animaux ont une vie correcte. C'est clair que pour les consommer, il y a l'abattage aussi qui doit intervenir, mais c'est vrai même au niveau de l'abattage, il y a des conditions aussi quand même assez strictes au niveau des contrôles lors de l'abattage. Et puis il y a des durées de transport aussi qui sont limitées. En Suisse, on a maximum 8 heures de transport. Si on est en Europe, c'est beaucoup plus. Donc là, voilà. Donc moi, je pense pas qu'il faut affaiblir les normes, ces standards. Il faut les maintenir. Parce que l'attente de la société par rapport à cela, ça va pas aller en diminuant, ça va aller en croissant.
Johan Studer, peut-être votre cas, parce qu'il est quand même assez parlant, vous élevez des porcs basques, vous tenez au bien-être, vous l'avez expliqué, ils vont à l'extérieur aussi. Mais pour les laisser, vous souhaitez des boucles nasales, parce que le porc est fouineur, finalement, c'est dans sa nature. On vous l'interdit, d'autres pays l'acceptent. On est face à un paradoxe, voire une hypocrisie, non?
Ben disons qu'il est clair que voilà, quand on parle d'élevage, n'importe quel pays édicte des règles minimales en dessous desquelles on n'est pas d'accord d'aller. Moi, je pars du principe que tout ce qui est fait, tout ce qui permet de faire mieux que les règles minimales devrait être toléré. Et oui, c'est vrai, je leur mettais une boucle dans le nez, Mais en échange de quoi, je leur permettais de vivre en 18 et 24 mois entre 4 et 6 mois pour du porc conventionnel. Et surtout, ils avaient la possibilité de s'ébattre sur plus de 1000 m² chacun. Donc ils avaient entre 7 et 8 hectares à disposition de bois, de sous-bois, de vergers, une alimentation d'omnivores. Et voilà, quand on essaye d'amener des solutions d'une agriculture alternative, et ben en fait, on se rend compte qu'on nous met facilement des bâtons dans les roues. C'est beaucoup plus facile de faire quelque chose de standard que de faire quelque chose d'alternatif. Et ce qui est paradoxal, c'est que les seuls opposants qu'on a rencontrés sur ce problème de boucle, ça n'a pas été les consommateurs, ça n'a pas été les professionnels, ça a été la protection suisse des animaux. Ce sont les seuls qui, d'ailleurs, n'ont pas voulu se rendre sur l'exploitation, et ce sont les seuls qui n'ont pas voulu discuter de ce cas. Ce qui est particulier aussi, c'est qu'eux-mêmes valident certains autres types de production où les animaux ne vont pas au pâturage, et bon, ça ne leur pose pas de problème, mais nous, c'est compliqué. Et puis, l'autre problème, c'est que le politique est totalement absent du débat. Je crois que le lobby de la protection suisse des animaux est suffisamment puissant, et que ça soit au niveau régional ou cantonal, nous sommes seuls pour essayer de trouver une solution pour détenir nos animaux au pâturage. Voilà.
Un mot peut-être ou une réaction, Pierre Chazard, par rapport aux propos que vient de tenir Jean Studer. Dans votre vision de l'égalité animale, vous parvenez-vous à comprendre justement que des producteurs se battent pour le bien-être de leurs animaux, tout en sachant qu'au final, la viande leur permettra de tout simplement vivre?
Moi, si c'est la question, je comprends très bien qu'on soit dans des situations dans lesquelles les éleveurs sont obligés de vivre de ça. J'ai aucun problème avec ça en principe. Mais là, la question, je crois qu'il y a un peu un malentendu sur cette question animale, dans la mesure où ce qui est souvent mal compris, c'est que cette question de spécisme, par exemple, c'est une question qui est d'ordre profondément politique. Donc, ça veut dire qu'on est en train de parler d'un changement de société vraiment à part entière, dans laquelle on est en train de voir encore plus loin en fait, pour en venir un jour, le plus tôt j'espère, à l'abolition de l'exploitation animale, la fermeture des abattoirs et l'interdiction de la pêche et de l'élevage.
Réaction, Jean Studer, je vous vois lever la main.
Oui, alors voilà, là je pense qu'on rentre dans le vif du sujet. C'est évidemment la question n'est pas de savoir, avec par exemple une association telle que PEA, de savoir est-ce qu'on va améliorer la qualité de vie des animaux. Elle l'a dit elle-même, ils sont abolitionnistes, c'est-à-dire qu'ils veulent simplement supprimer l'élevage. Voilà. Et en fait, ils ont derrière, vous me couperez si je me trompe, mais en fait, derrière cette idéologie, il y a le fait de ne plus faire souffrir les animaux. Et donc, en devenant vegan, et donc antispéciste et donc vegan, vous avez l'impression d'être totalement détaché et du mal-être animal et de la souffrance animale et de la mise à mort des animaux. Seulement, là où je pense que vous faites totalement erreur, c'est qu'en mangeant que des végétaux, que ce soit des légumes, des fruits, des céréales, il y a tout autant, voire peut-être plus, de souffrance animale. Alors, loin de moi l'idée de vous parler du cri de la carotte et puis de la gazelle qui se mangeait par le lion. Alors ça, c'est des arguments que je ne peux pas entendre non plus. Mais je ne sais pas si vous êtes... Je pense que vous n'êtes pas suffisamment naïf pour savoir de quelle manière sont produits les légumes, les céréales. On laboure avec des machines, il y a énormément d'animaux. Vous dites que vous êtes antispéciste, c'est-à-dire que chez vous, l'insecte, la musaraigne a autant de valeur que la vache, le porc. Ah ben c'est dans votre liste, dans votre site PEA, c'est même les mollusques, les fruits de mer et tout ça. Ah si, les fruits de mer, c'est marqué, j'ai le document avec moi. Et donc, dans un kilo de carottes, vous avez certainement, à mon avis, plus, je ne suis pas chasseur, donc je peux prendre cet exemple facilement, mais plus de souffrance animale que dans un kilo de sanglier. C'est-à-dire que le sanglier, il a vécu toute sa vie en liberté, on l'a tué, on a sorti 50 kilos de viande. Mais pour produire 50 kilos de carottes, mais vous avez bien plus d'animaux qui vont être broyés, mixés, écrasés, enseveli. Donc je peux comprendre vos combats, je le respecte tout à fait, mais en aucun cas vous détenez la vérité sur la souffrance animale.
On va permettre à Pierre Chazard de répondre et puis ensuite on poursuivra le débat aussi avec les positions de Michel Darbelay et Olivier Girardin. Pierre Chazard.
Oui, ben déjà, merci d'avoir pris la peine de vous renseigner sur la question, parce que c'est vrai que souvent, on a des interlocuteurs qui ne prennent pas du tout la peine de le faire. Néanmoins, il y a quand même quelques erreurs de compréhension, mais forcément, enfin, c'est quand même un grand mouvement politique qui existe depuis des années, donc c'est pas une question qui est balayée d'un revers de main. Pour ce qui est de la souffrance des animaux la production de carottes, vous disiez, ben, pour faire de la viande, eh ben, il faut aussi cultiver des céréales. Mais la production de viande.
Prenez l'exemple du sanglier. Répondez sur mon exemple.
Je veux bien. Enfin, non, je veux pas prendre cet exemple parce que c'est un mauvais exemple. Non,
parce qu'il vous embête,
non,
il m'embête.
Non, merci de pas me couper. Par contre, c'est juste mal poli. Par contre, le problème, c'est qu'on peut pas comparer une situation fictive. On ne se nourrit pas de sangliers. Vous me dites. Comment est-ce qu'on ferait si tout le monde devait se nourrir de carottes et vous me donnez en échange un exemple de sanglier? Mais on ne se nourrit pas de sangliers chassés. La vérité actuellement, c'est que 77 millions d'animaux passent par les abattoirs chaque année en Suisse et que la plupart des élevages suisses sont vraiment des élevages intensifs, quoi.
Alors, un mot peut-être, Michel Darbelay, je vous vois réagir aussi, et puis Olivier Girardin, Michel Darbelay, directeur d'Agri-Jura.
On est censé parler de bien-être animal ce soir, mais on voit que le débat vit sur l'antispéciste. Simplement, moi, ce que je constate et ce que je regrette, c'est qu'une minorité de la population veut imposer son dogme à une majorité de la population. Les traditions, l'alimentation, notre mode de vie repose aussi sur la consommation de viande. Nous, ce qu'on attend aussi, c'est une consommation raisonnée de viande, respectueuse des animaux, respectueuse aussi de la nature, et c'est ce à quoi les agriculteurs suisses et les familles paysannes suisses dans leur ensemble s'engagent. Et c'est vraiment ces engagements-là, ces promesses que l'on peut faire, que l'on peut tenir, contrairement à ce que l'on voit depuis l'étranger. Et moi, ce que je regrette dans le débat des antispécistes, ils fustigent des abattoirs, des exploitations qui sont pourtant exemplaires par rapport à l'étranger. Et ce qui va se passer si on continue comme ça, c'est à force de jeter le discrédit sur la production suisse, à force d'exiger toujours davantage de bien-être animal sous couvert d'un jour d'arriver à bout de la consommation de viande et de la production de viande en Suisse, eh bien qu'est-ce qui va se passer? On aura toujours une partie de la population qui voudra consommer de la viande. Et à force d'affaiblir la production suisse, on va importer les yeux fermés en toute hypocrisie avec des modes de production qui ne sont en tout cas pas admis en Suisse et des modes de production totalement irrespectueux des animaux. Et ça, je crois qu'il faut quand même prendre du recul et le dire haut et fort ce soir.
Un mot encore peut-être Olivier Girardin avant de laisser répondre Pierre Chazard.
Oui, bon, pour moi, un point important, c'est justement la consommation de viande. Il faut quand même voir que ça fait partie de l'évolution de l'espèce humaine. On a été chasseurs-cueilleurs, et puis ensuite, si on regarde l'élevage, les racines de l'élevage, ça remonte à 10 000 ans. Donc, c'est clair que l'espèce humaine, elle est étroitement liée, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de nos gènes. Donc, faut pas penser qu'on peut pas manger de viande. Par contre, effectivement, ce qu'il y a toujours eu au niveau de l'espèce humaine, puis c'est ce qui est important aussi en Suisse, c'est qu'on se doit de respecter les animaux, c'est-à-dire les manger. Ça ne veut pas dire qu'on ne les respecte pas. Puis la manière dont on les abat, ce respect à l'animal, il est dû jusqu'à la fin. Et puis je pense que si ça, on le fait, à mon avis, on peut manger de la viande en toute bonne conscience. Et puis à ce niveau-là, c'est clair que peut-être par rapport, pour moi, un point important, c'est aussi peut-être l'impact de l'élevage sur l'environnement. Et puis de savoir aussi comment on valorise ce qu'on produit en Suisse. En Suisse, on a des herbages. C'est clair que les herbages, on ne va pas commencer de manger des herbages au niveau humain. Il nous faut quand même des animaux pour les transformer, les mettre en valeur. Donc c'est cette valorisation des herbages qui est un point aussi important. Et puis de trouver l'équilibre là entre l'environnement, donc l'impact aussi sur les animaux, l'impact aussi sur le bien-être. Et puis si on arrive à trouver un bon équilibre, et puis là je pense qu'on a encore du chemin peut-être à faire, mais on est déjà pas mal en Suisse, et bien on peut continuer de consommer de la viande en toute bonne conscience.
On peut les manger tout en respectant l'animal, Pierre Chazard, c'est ce que vient de dire.
Alors d'abord j'aimerais rebondir ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait.
Donc vous parliez à Michel Darbelay.
Voilà,
hein.
Donc vous parliez du fait que le mouvement antispéciste voulait imposer un dogme. De la même manière que j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est vraiment indispensable de comprendre que le mouvement antispéciste est un mouvement politique à part entière. Tout mouvement politique essaye de faire changer la société. C'est le but d'un mouvement politique. Donc c'est pas une question de dogme, mais évidemment, bien sûr, oui, on fait campagne pour sensibiliser les gens à la question animale. C'est le but de tout mouvement politique. On essaie d'introduire des changements dans une société.
Mais avec des positions extrêmes, vous comprendrez bien, Madame Chazard, que le dialogue est totalement impossible.
Mais je pense pas que le dialogue soit impossible. Je suis venue depuis Lausanne.
On vous en remercie
précisément
d'ailleurs.
Pour discuter avec vous. Donc il me semble qu'on est plus qu'ouvert au dialogue. Je travaille aussi de temps en temps avec Agridea à Lausanne. Le dialogue est largement ouvert. Vous êtes constamment les bienvenus à toquer à la porte de l'association pour qu'on dialogue. Et c'est pas pour rien que je suis là aujourd'hui. Mais simplement, évidemment, on a des positions qui sont très différentes. Néanmoins, à aucun moment on a envie de. On se dit qu'il faut complètement négliger les intérêts des éleveurs en Suisse. Non, je pense qu'il y a une manière en fait d'aller tous ensemble vers une société qui respecte réellement les animaux et donc qui abolit les abattoirs et l'élevage. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, malheureusement pour les animaux, mais c'est un changement de société possible, de la même manière qu'on a vécu d'autres changements de société fondamentaux de nos dans l'histoire.
Il nous reste un quart d'heure de débat. Je vous propose qu'on poursuive avec un élément qui a déjà finalement été un petit peu évoqué tout à l'heure, notamment par vous, Olivier Girardin. C'est que dans nos régions frontalières, mais aussi directement dans toute la Suisse, on ne consomme pas nécessairement toujours de la viande suisse. Comment faire pour que les Suisses, s'ils veulent manger de la viande, mangent davantage de la viande de leur pays? Qu'est-ce qui manque pour que, la population trouve ou soit intéressée à manger véritablement de la viande suisse et indirectement donc aider les producteurs du pays? C'est une question de visibilité, de vitrine, de publicité, c'est quoi?
Alors je pense qu'il y a déjà passablement de publicité qui se fait, mais c'est vrai qu'après, ce qu'on constate aussi avec le tourisme alimentaire, souvent c'est peut-être aussi des fois des questions de budget, ou c'est clair, en étant proche de la frontière, on sait qu'on peut acheter de la viande moins chère de l'autre côté, vu qu'elle est produite dans des conditions différentes, puis ça a certainement un effet. Et puis là, je pense qu'il y a un travail encore d'éducation à faire, de sensibilisation, en disant de la viande, je pense à l'avenir, il faut qu'on en consomme un peu moins. Mais si on en consomme, il faut consommer de la viande suisse. Et puis pas importer de la viande qui vient de l'autre bout du monde. Puis si on consomme un peu moins de la viande qui est élevée dans le respect animal, eh ben on peut en consommer en toute bonne conscience.
Michel Darbelay, sur cette question-là, dans quel domaine faut-il se démarquer? Vous rejoignez Olivier Girardin. Dans quel domaine faut-il se démarquer? Est-ce que les labels peuvent jouer un rôle pour que les Suisses mangent de la viande suisse?
Alors, d'une part dans les labels, ça c'est une chose, c'est ce que les agriculteurs font déjà aujourd'hui en grande partie. On peut parler des labels IP Suisse, Bio Suisse, on a les labels Natura Bif. Tous ces labels-là sont des bons exemples pour montrer que les agriculteurs ont réussi à se positionner. Mais pour se positionner, pour arriver à tirer son épingle du jeu, eh bien il y a quelque chose de fondamental qui reste décisif, c'est la question de la protection douanière pour assurer un niveau de base au prix de la viande suisse. Sans quoi les agriculteurs, malgré tous les efforts du monde, n'arriveront pas à respecter ce qu'on attend d'eux en matière de bien-être animal, mais aussi en matière de sécurité alimentaire.
Jean-Ange Touder, une vision par rapport à cela? Est-ce qu'une meilleure visibilité permettrait une amélioration du bien-être animal?
Oui, alors c'est sûr qu'une meilleure visibilité est bénéfique à tous ceux qui la produisent, mais moi je pense, en tout cas sur notre exploitation, nous pratiquons beaucoup de ventes directes, et je pense qu'il est primordial pour nous de communiquer sur ce que l'on fait et de faire ce que l'on communique. Et si on peut avoir un rapport de confiance avec le consommateur, je pense que tout le monde a y gagné, quoi.
On va passer, si vous le voulez bien, à l'initiative des vaches à cornes, parce que c'est quand même indirectement quelque chose qui est d'actualité. On est à un mois de la votation maintenant. Ça parle évidemment de bien-être animal, puisqu'on se retrouve au cœur du sujet finalement avec cette initiative. On rappelle qu'elle s'appelle Pour la dignité des animaux de rente agricole, ça c'est le titre exact. Elle est devenue dite des vaches à cornes. Si vous soutenez l'initiative, ça veut dire qu'il faut arrêter de couper les cornes, et ça permettra indirectement aux agriculteurs du pays de toucher 190 francs par vache, 38 par chèvre. J'ai dit une erreur? Vous faites...
Oui, on ne sera pas obligé, ça ne va pas interdire le fait de couper les cornes.
Ah non, alors on est d'accord. Mais si on soutient l'initiative, ça veut dire que...
On va soutenir simplement financièrement les agriculteurs qui garderont leurs cornes.
Qui décideront de garder les cornes.
On laissera le libre choix aux éleveurs.
Dont les vaches garderont les cornes.
Oui.
Alors, on va commencer justement avec vous, le Jean-Ange Touder. Vous avez des bêtes à cornes?
Oui, alors moi, ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années qu'on a acheté des vaches en Auvergne, des vaches de race salaire, et qui ont des cornes particulièrement importantes, imposantes, et qui tournent toutes seules. Et donc, elles sont très élégantes avec leurs cornes. Moi, je n'ai pas trop envie de me prononcer sur cette initiative, parce que déjà, je suis directement concerné, donc je trouverais un peu malvenu de soutenir cette initiative alors que j'en serais un des premiers bénéficiaires. Voilà, je pense que c'est plus une question de vision, enfin d'envie des gens qui vont voter, de savoir est-ce qu'ils ont envie de voir encore pendant de longues années des vaches avec des cornes ou pas dans les campagnes. Mais enfin voilà, pour moi c'est pas absolument nécessaire que ça passe, que cette initiative passe. Et puis peut-être ce que je voulais encore ajouter par rapport à cette histoire de cornes, j'ai perdu le filet, je m'excuse.
Mais est-ce que vous voyez, vous êtes déjà rendu compte de l'utilité des cornes finalement au quotidien? Alors, à quoi ça sert pour une vache d'avoir des cornes?
Alors c'est sûr qu'on peut pas nier le fait que les vaches utilisent leurs cornes pour se gratter, se toiletter, enfin et aussi établir une hiérarchie peut-être de manière plus rapide, enfin voilà. Maintenant, je ne me prononcerai pas sur le fait de savoir si elle est indispensable à son bien-être.
Michel Darbelay, directeur d'AgriJura, est-ce qu'on maltraite les veaux, les vaches, les chèvres lorsqu'on leur enlève les cornes?
Alors au contraire, on ne les maltraite pas puisque ce sont des pratiques qui sont faites sous anesthésie pour que les veaux ne souffrent pas. On fait ça dans le plus jeune âge des animaux. Et pourquoi on le fait? C'est finalement pour que ça profite au bien-être animal en définitive, puisque je vous rappelle que si aujourd'hui on a la majorité du cheptel suisse bovin, en tout cas qui est écorné, c'est parce que ces bovins, contrairement à il y a 20-30 ans en arrière, ces bovins sont aujourd'hui détenus de manière libre. Donc ça veut dire qu'ils ne sont plus attachés dans les étables comme c'était le cas à l'époque. Ils peuvent aller se nourrir à leur guise, se reposer à leur guise ou prendre un bain de soleil aussi à leur guise. Donc finalement, l'écornage, c'est le passage obligé pour le bien-être animal, à la fois pour la sécurité des animaux entre eux. On rappelle, hein, il y a souvent des accidents des animaux entre eux quand les animaux portent des cornes, ou aussi la sécurité envers les gens qui travaillent avec. Et je pense que l'argument par rapport à toute cette question de l'initiative vache à cornes, c'est plus une question de principe et de fond. Vouloir instaurer, introduire dans la Constitution le texte fondamental qui fait la Suisse, le fait de soutenir financièrement les vaches à cornes ou non, je crois que là c'est aller un pas trop loin, c'est ouvrir la boîte de Pandore, c'est faire ouvrir une brèche pour commencer à introduire n'importe quoi dans la Constitution. Je crois qu'il faut quand même raison garder. C'est une disposition qui pourrait très bien prendre sa place dans une ordonnance, mais en tout cas pas dans la Constitution, s'il vous plaît.
Pia Chazard, cette initiative, c'est un petit pas en faveur du bien-être ou ça va beaucoup trop loin, comme le dit Michel Darbelay?
Non, ça va pas trop loin, mais disons que j'ai beaucoup de peine à concevoir qu'on soit réellement en train de parler de bien-être animal, alors même qu'on vit actuellement dans une société dans laquelle on peut se permettre de renoncer en fait à la consommation de viande, par exemple. Donc ça me semble le minimum que quand on parle de bien-être animal, on ne mette pas à mort des animaux. Pour moi, le bien-être animal et le fait de tuer des animaux me semblent complètement antinomiques. Alors vous avez utilisé tout à l'heure, monsieur, le terme d'extrémiste. Moi, je ne m'identifie pas du tout à ça. Au contraire, je pense que ce qu'on demande, c'est tout sauf de l'extrémisme. La seule chose qu'on demande...
Vous voulez tout de même l'abolition de la consommation de viande, si
oui,
ça, c'est pas une position extrême.
Si vous me laissez finir les phrases, c'est d'une part plus poli et plus agréable. Donc la seule chose qu'on demande, c'est vraiment rien d'extrême du tout. On demande simplement à ce qu'on ne tue pas les animaux, étant donné qu'ils souffrent du fait d'être mis à mort et du fait qu'on a la possibilité de ne pas le faire. Si on vivait dans un monde où c'était impossible, la question se poserait autrement. La seule chose qu'on dit, c'est le minimum, ne pas tuer des animaux, ne pas faire souffrir quand on a la possibilité de le faire.
Olivier Girardin, c'est vraiment pour vous a pas entendu.
Oui, alors peut-être
sur l'initiative des vaches à cornes.
L'initiative sur les vaches à cornes, puis ça me permettra de faire le lien aussi avec la position quant à ce bien-être animal aussi. Donc l'initiative sur les vaches à cornes, je pense un des points, c'est vrai qu'en écornant les bêtes, on évite aussi qu'elles se cassent des cornes. Moi, je me souviens bien aussi en ayant grandi sur une exploitation, que quand elles se cassent les cornes, ça fait quand même assez mal et puis elles souffrent aussi passablement. Donc on peut toujours aussi se poser la question, est-ce que c'est mieux d'avoir un certain pourcentage de vaches qui se cassent les cornes que plutôt de les écorner? Donc sur ce sujet, voilà, moi je pense effectivement, je partage un peu l'avis de Michel Darbelay, que c'est pas nécessaire d'ancrer ça au sein de la Constitution. Maintenant, pour faire le lien avec la question du bien-être animal, moi à mon avis, justement, s'il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de bien-être parce qu'ils ne sont plus là, quoi. Et puis moi je pense que les animaux qui sont là, ils peuvent bien vivre. De toute façon, on va mourir aussi un jour. Hein, on est là, on est appelé à disparaître de la planète. Les animaux, la même chose. Donc, quelque part, pour moi, ça c'est tout le sens aussi du sacrifice. Si on remonte à la racine hein, de ce qui fait l'espèce humaine, on a toujours consommé des animaux, mais on les a respectés. Il faut les sacrifier, les respecter. Puis ça, c'est ce respect-là qu'on doit avoir. Puis si on le fait, aucun souci, on peut en manger en toute bonne conscience.
Jean-Ange Toudère.
Oui, moi je voudrais juste rebondir sur ce que ça a dit Mme Chazard tout à l'heure. Vous avez dit que, en fait, voilà, si on veut respecter les animaux, on ne doit pas les tuer, certes. Si je reprends mon exemple de production de légumes, on sait très bien que vous, les légumes que vous consommez, impliquent forcément la mort de nombreux animaux également. Vous le reconnaissez. Par le biais de cultiver la terre, on écrase des campagnols, on peut battre des renards et tout ça. Est-ce que vous-même, vous avez un potager et que vous êtes autosuffisante?
Moi, je ne suis pas autosuffisante. Je prends pas mal de potagers familiaux qu'il y a dans ma famille, mais je ne suis pas complètement autosuffisante.
Donc, vous ne faites pas tout votre possible? Vous ne faites pas tout votre possible pour supprimer totalement la souffrance animale dans le cadre de votre alimentation?
Vous avez compris que ce n'est pas une question de consommation personnelle, mais une question politique.
Oui.
D'organisation
de la
société.
On peut rebondir sur la politique, j'entends bien.
Parce que c'est vraiment ça le but, quoi.
Moi, à partir du moment que vous vous considérez comme un mouvement politique, ce que je vous accorde totalement, seulement quand il y a des actions violentes qui sont faites contre des boucheries ou contre des abattoirs, ce genre de choses, vous allez répondre. Quand j'entends que vous ne le condamnez pas, que vous trouvez que c'est tout à fait normal dans un parti politique, que chacun a qui peut avoir différentes stratégies, j'emploie vos termes, différentes stratégies pour obtenir un résultat, là on passe à un niveau politique qui commence à être extrémiste. La violence, je trouve assez étonnant de combattre la violence par la violence. C'est comme moi, je peux vous reconnaître beaucoup de qualités, mais celle-là, je ne la comprends pas.
On s'éloigne un tout petit peu quand même des vaches à cornes hein, sur la position.
Oui, mais j'ai rien à dire sur ce sujet parce que l'association n'est absolument pas impliquée dans ces actions, donc je vais me contenir à ce qu'on fait nous.
Une dernière position peut-être, vous, Pierre Chazard, et ensuite on poursuivra.
Peut-être, je pense que pour avoir un peu une idée, parce que je pense que là on est en train de parler de quelque chose qui est très abstrait pour la plupart des gens. Effectivement, vous parliez avant du fait qu'il fallait valoriser les abattoirs de petite taille, etc. Nous, on a diffusé des enquêtes en abattoirs de petite taille, c'est le cas de l'abattoir d'Avenches ainsi que l'abattoir de Moudon. Ce sont des petits abattoirs qui respectent l'abattoir d'Avenches, si tu un jour par semaine, je veux dire, c'est quand même un abattoir de petite taille, c'est pas Micarna. Hein. Donc, je veux dire, qui respectait globalement les normes. En tout cas, il n'y avait pas de maltraitance, entre guillemets, évidente selon la loi suisse. Néanmoins, on voit que dans ces petits abattoirs qui fournissent les boucheries de quartier, donc cette viande qu'on croit tous irréprochable, les animaux luttent pour leur vie, ils tremblent de peur, ils crient, ils essayent de fuir et ils font tout leur possible pour sortir de ces abattoirs. Donc, ou pour en tout cas échapper à la pince électrique ou à la tige perforante. Donc ça, je vous renvoie au site www.abattoir-suisse.ch si vous êtes intéressé à voir ces images. Donc il n'y a rien, c'est pas les images françaises. Ce qu'on y voit respecte globalement la loi. Nous, ce qu'on voulait montrer, voilà comment on tue les animaux en Suisse quand la loi est globalement respectée.
Il nous reste 3 minutes dans le débat. J'aimerais pouvoir faire un tour de table de conclusion. Olivier Girardin demandait vite la parole.
Oui, alors bon, juste sur ce point, au niveau des conditions d'abattage, on a quand même des contrôles qui sont quand même stricts dans les abattoirs avec des vétérinaires et autres qui font que, je pense que voilà. Et puis ce qu'il faut voir aussi, il faut mettre en lien la qualité de la viande avec les conditions d'abattage. Si vous avez une bête stressée, ça va vous donner une viande de piètre qualité. Donc c'est clair qu'au niveau de l'abattage, on fait quand même attention à éviter aussi ces conditions telles qu'elles sont décrites. Ça ne veut pas dire qu'il y a peut-être l'un ou l'autre cas extrême, mais de là à en faire une généralité, je ne partage pas cet avis.
Pardon, je m'excuse d'ajouter. C'est précisément pour ça que je vous renvoie vers ces enquêtes d'abattoirs qui correspondent en fait à ce que vous décrivez dans la mesure où c'est des petits abattoirs qui respectent les normes en vigueur.
Mais les grands abattoirs respectent aussi les normes en vigueur. Il y a des contrôles. Il ne faut pas penser que les grands abattoirs ne respectent pas les normes.
Non, c'est juste pas imaginable. Mais je veux dire que quand on a cette image d'Épinal sur les petits abattoirs de proximité, vous pouvez voir comment ça se passe sur ce site web.
Mais la filière alimentaire suisse est l'une des plus contrôlées au monde. Il y a des contrôles qui sont faits systématiquement. Les contrôles à l'arrivée de chaque animal à l'abattoir. Les contrôles après l'abattage aussi. Et Madame Chazard, s'il vous plaît, vous dénoncez soi-disant des pratiques qui frise l'illégalité, mais en tout cas les vôtres sont totalement illégales. Quand vous vous introduisez dans des lieux privés, dans des abattoirs, dans des exploitations, franchement, utilisez s'il vous plaît d'autres méthodes que des méthodes illégales pour dénoncer soi-disant des méthodes illégales.
L'association n'a jamais mené la moindre action illégale.
Vos membres en tout cas, à ma connaissance.
Deux minutes pour conclure et peut-être un tout petit peu relever d'un point de vue philosophique, si l'on peut, ce débat pour conclure ces 35 minutes, même si ça risque de continuer après, parce que je vois Madame Chazard et M. Stouder discuter pendant que je le fais également. Juste vous laisser 30 secondes à chacun pour conclure ce débat, parce que c'est vrai qu'on a parlé d'abattage, on a parlé donc de l'actualité des vaches à cornes, on a parlé du bien-être, on a parlé de la production. N'empêche que ce débat du bien-être animal a, je ne sais pas si on peut parler de tournant, mais a évolué en tout cas dans ce début de 21e siècle, jusqu'au point où le peuple suisse doit voter dans un mois pour des vaches à cornes, pour savoir ce qu'il faut faire avec les cornes des vaches. Qu'est-ce que ça dénote à votre avis? Est-ce qu'il y a une vraie évolution dans le rapport entre l'humain et l'animal? 30 secondes chacun, peut-être Madame Chazard pour démarrer.
Oui, effectivement, on voit de plus en plus de gens qui sont intéressés, bon, d'une part au véganisme, mais c'est une question parallèle, mais de plus en plus, on voit des gens qui rejoignent le mouvement antispéciste. Typiquement, c'est quelque chose de relativement nouveau, en tout cas, on n'en parlait pas avant les années 70. Il y a une évolution, on a un soutien de plus en plus grand de la part de la population aussi, qui est venu notamment à la suite de ces vidéos d'abattoirs.
Merci. Jean Stouder, évolution?
Non, moi je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Je pense qu'on peut tout à fait élever des animaux avec beaucoup d'attention. Et puis oui, effectivement, ça finit par une mise à mort. Mais on peut le faire aussi d'une manière très respectueuse. Voilà, je pense qu'il y a juste milieu à trouver.
Michel Darbelay.
Moi, je crois tout d'abord qu'il faut garder cette longueur d'avance qu'on a en Suisse en matière de bien-être animal. Mais il faut aussi savoir expliquer aux consommateurs comment on produit nos animaux. C'est aussi pour ça qu'on est là à la Foire du Jura avec des animaux et au bout du compte, le stand des produits du terroir. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des étapes entre deux que l'on ne préfère pas voir, qui étaient peut-être... commune à l'époque avec l'abattage à la ferme, l'abattage dans les villages et tout ça, c'est des étapes qu'on a peut-être oubliées mais qu'il faut quand même aussi arriver à expliquer aux consommateurs.
Et pour conclure, Olivier Girardin, très rapidement.
Voilà, effectivement, moi je pense que cette question du bien-être animal, ça reste, c'est une question actuelle, je pense qu'il sera de plus en plus importante aussi, mais de montrer, justement communiquer que c'est pas, voilà, qu'on peut, l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'on peut avoir quand même du bien-être animal et puis quand même les consommer. Puis je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça fait partie de notre culture. On est au pays de la Saint-Martin, on y sera bientôt, ben voilà, j'entends la joie, le Jura sans la Saint-Martin, je sais pas trop ce que ça donnerait.
Heureusement que les cultures et les traditions évoluent.
Oui, mais ça fait partie de nos racines,
merci.
C'est dans nos
vous
gènes.
Vous pourrez poursuivre le débat hors antenne, mais nous on doit la rendre. Merci à tous les quatre d'avoir partagé cette demi-heure ensemble en direct de l'espace agricole de la Foire du Jura. Merci à vous qui êtes derrière le poste, merci aussi à Grégory pour l'installation technique, merci aussi à Claude en régie finale. Belle soirée à toutes et à tous.
Place publique.